Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Douze ans après la crise des subprimes, le monde est confronté à une nouvelle crise mondiale. Elle n'est pas financière mais sanitaire et se double d'une crise économique dont l'ampleur est encore difficile à mesurer. Mais les conséquences de la pandémie de Covid-19 constituent un choc pour des millions de personnes qui risquent d'y perdre leur emploi. Une crise qui pousse de nombreux individus à s'interroger sur le sens de la vie, quand d'autres pensent surtout à survivre. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et je vous propose de voyager virtuellement jusqu'à Rome, où le pape François réfléchit à l'économie de demain, une économie plus solidaire. Il y a presque un an dans La Story, j'étais allé à la rencontre du père Éric Salobir, surnommé par certains le geek du Vatican. On avait parlé intelligence artificielle, robotique, transhumanisme. Il vient de publier « Dieu et la Silicon Valley » dans lequel il aborde toutes ces questions. Mais il n'est pas le seul à murmurer à l'oreille du pape, même s'il n'aime pas parler de cet aspect de son sacerdoce. Le pape François a en effet pris langue avec des économistes du monde entier pour parler de la crise mais aussi de l'économie responsable lors d'un forum virtuel qui se tient au moment où j'enregistre ce podcast. Cela ne pouvait pas échapper au plus italien des Français de la rédaction. Bonjour Pierre.
Bonjour Pierrick.
Dans les Échos Week-end, vous racontez comment le Vatican se transforme en club de réflexion de l'économie responsable. Alors d'abord, pourquoi cet intérêt du pape pour les nourritures terrestres ?
Eh bien, en fait, depuis sa première encyclique de 2015, Laudato Si, on sait que le pape s'intéresse à l'économie et à l'environnement. C'est devenu vraiment des thèmes très importants pour lui. Il faut bien comprendre que ce sont deux thèmes qui cheminent parallèlement. C'est-à-dire que pour lui, l'économie se conçoit aussi comme un souci des plus pauvres. Et donc, c'est un texte aussi sur l'économie sociale, la première encyclique Laudato Si. Et il était évidemment très important pour lui d'organiser cet événement qui, au départ, était prévu en présentiel, à Assise, mais qui est une espèce de forum d'écoute des attentes des jeunes et qui tombe à point nommé, évidemment, aujourd'hui avec la pandémie.
Oui, il était indispensable de former, de soutenir les nouvelles générations d'économistes et d'entrepreneurs pour adopter un nouveau modèle de développement qui n'exclut pas, mais inclut et ne génère pas des inégalités. Voilà, c'est ce qu'avait expliqué le pape, c'est ce que vous expliquez dans votre article. L'événement dont vous parlez, c'est fin novembre, entre le 19 et le 21, cette conférence virtuelle, un événement qu'on a baptisé le Davos du pape.
Oui, alors ça, c'est une appellation qui est apparue dans la presse, mais que ne revendiquent pas les organisateurs, hein. Pour eux, c'est plutôt un forum consacré aux jeunes. Ils ne récusent pas d'ailleurs cette appellation du Davos du pape, parce qu'ils savent qu'elle est assez alléchante du point de vue médiatique. Mais c'est plus large que ça, évidemment. Ça n'est pas simplement un forum médiatique. Disons que pour la première fois dans l'histoire du Vatican, il y a un forum organisé, alors aujourd'hui de manière virtuelle, tout est en ligne, qui va permettre de faire se confronter les jeunes avec des économistes de renom tels que Jeffrey Sachs ou Mohamed Younous.
Effectivement, il y a beaucoup d'invités. Il y a des économistes français, des stars qui sont présentes également.
Oui, alors en ce qui concerne les Français, il y a deux noms qui se détachent. C'est Cécile Raynouard, qui est une religieuse, hein, une religieuse de l'Assomption, mais qui est aussi économiste, docteur en philosophie et diplômée de l'ESSEC. Elle enseigne à l'École des Mines, à l'ESSEC, à Sciences Po. Et elle a été très associée à cet événement, à cette conférence. Elle est aussi en contact régulier avec la Congrégation des sciences sociales, et donc elle fait partie des piliers de l'événement et aussi des économistes les plus consultés par le pape, avec d'autres économistes comme Kate Raworth, qui est, elle, à Oxford, au Royaume-Uni, et qui est une autre économiste qui a notamment écrit un best-seller sur la théorie du donut et les limites de la planète. Donc ça, c'est aussi une personne qui a, disons, l'oreille du pape, et également Gaël Giraud, le jésuite économiste qui est assez médiatique en France, assez radical d'ailleurs, qui fait partie des intervenants lors de ce forum.
Ouais, quels étaient justement les thèmes de réflexion ?
Alors, les thèmes de réflexion, il y a en fait 12 villages, parce que c'est organisé sous la forme de villages, qui vont regrouper des thèmes de travail. C'est la dénomination utilisée. Et en fait, cela va de la finance, évidemment, la finance éthique, c'est-à-dire comment rendre la finance plus éthique et la mettre au service de la personne, mais aussi des thèmes aussi divers que l'économie, le développement durable, l'économie et les femmes. Ça, c'est très important parce que le pape a confié un rôle important à une sœur aussi qui s'appelle la sœur Smerilli, qui est une économiste italienne et qui est la première femme qui a été nommée conseillère d'État au Vatican. Et donc, elle va mettre en avant ces thèmes de la participation des femmes à l'économie. Il y a aussi un village consacré, donc je le disais, à la finance, puisque ça, c'est un thème majeur dans toutes les interventions du pape sur l'économie.
Ouais, justement, on voit un pape qui s'intéresse beaucoup à l'économie. Est-ce que derrière lui, au sein du Vatican, il y a aussi une réflexion qui s'organise sur les questions économiques ?
Oui, bien sûr. Donc, il y a l'Académie des sciences sociales dont je parlais, hein, l'Académie pontificale des sciences sociales, qui est un peu le think tank officiel du Vatican, qui est présidé par un économiste de renom italien qui s'appelle Stefano Zamani, qui est professeur d'économie à Bologne et qui est assez proche du pape aussi, puisque c'est lui qui l'a nommé à la tête de cette académie pontificale qui est très importante, puisque c'est elle un peu qui alimente la réflexion du pape sur ces sujets. Et accessoirement, vous savez qu'il a nommé Mario Draghi, l'ancien patron de la BCE, au sein de cette académie, où on retrouve des personnalités comme Joe Stiglitz, par exemple, le prix Nobel d'économie américain. Et donc, c'est au sein de cette instance que il y a une première réflexion, mais il y a d'autres centres de réflexion autour du Vatican, notamment la revue jésuite Civiltà Cattolica, dont je parle dans mon papier, et qui est une des plus anciennes revues italiennes, qui a été fondée par les jésuites et qui joue un rôle très important parce qu'elle est dirigée par Antonio Spadaro, qui est, on le sait, un peu le spin doctor officieux du pape, qui est extrêmement proche de François et qui lui sert aussi de gourou un peu dans les domaines des nouveaux médias et d'Internet.
Ouais, ils sont tous un peu en charge de la doctrine de l'Église catholique en matière économique. Alors, à l'origine, cette revue, hein, Civiltà Cattolica, était chargée de résister aux libéraux et aux francs-maçons. Quelle est aujourd'hui l'orientation que le pape François veut donner à son discours en matière d'économie ?
Alors, à vrai dire, l'entourage du pape insiste sur le fait qu'il s'inscrit pleinement dans la tradition de la doctrine sociale de l'Église. Il n'est pas question pour lui d'avoir un message économique trop ciblé ou trop précis. Disons que c'est plutôt le contexte qui donne à son message économique un relief particulier, l'économie ayant pris tellement de place depuis quelques années, et puis dans le contexte de la crise, enfin alors la crise financière de 2008, mais aujourd'hui la pandémie, évidemment, ces thèmes-là revêtent un aspect particulièrement fort, et on peut dire qu'aujourd'hui, c'est pas que le pape s'intéresse plus à l'économie, c'est que l'économie a pris plus de place dans la vie de la société. Donc, on le sait, dans sa première encyclique, qui était Laudato Si de 2015, il avait pris des positions assez radicales sur
le fait que l'économie n'est pas assez au service de l'humain, qu'il faut engager une nouvelle réflexion sur un nouveau paradigme. Et ça, on peut dire que d'une certaine manière, il a été assez visionnaire, puisque en fait, aujourd'hui, la pandémie remet en cause pas mal de fondements de l'économie classique, notamment les mesures de la croissance, le PIB, etc. Donc, disons qu'il a une vision assez novatrice en ce sens que c'est... aujourd'hui aussi, la part des femmes, il est très en avant là-dessus, sur ces thèmes, sur l'organisation du travail, la participation de la femme à la vie économique, la dignité du travail, mais aussi, évidemment, l'économie verte et le passage à de nouvelles source de réflexion sur le développement durable.
Quel est son rapport justement à la finance ? Il y a eu pas mal de critiques autour du système néolibéral et ce qu'on appelait les dérives individualistes de la mondialisation.
Oui, tout à fait, notamment dans la dernière encyclique qui est parue donc le 4 octobre, Fratelli Tutti. C'est un point très important. C'est une encyclique sur la fraternité et la refondation de l'économie, on peut dire. Et c'est effectivement ce texte qui a suscité pas mal de critiques en octobre de l'aile conservatrice de l'Église. Mais alors là-dessus, évidemment, l'entourage du pape a une réponse, c'est qu'il ne faut pas avoir une vision naïve ou caricaturale de ces textes. Notamment, ils estiment que la dernière encyclique n'a pas été bien comprise. Entre parenthèses, elle n'a peut-être pas été assez explicitée. En fait... il serait faux de penser, là je cite l'entourage du pape, enfin les organisateurs de l'événement du Davos du pape, ce n'est pas une encyclique qui dénonce le marché, le libre marché, mais plutôt les dérives individualistes et le fait que la finance a débouché sur une approche qui n'est pas assez éthique et morale.
Ecce vobis gaudium magnum, habemus papam.
Nous avons un pape en français. Mais la foule doit encore patienter avant de découvrir le visage du nouveau souverain pontife. À 20h20, le cardinal argentin Bergoglio fait son apparition au balcon de la basilique Saint-Pierre.
Le pape vient d'Argentine, un pays durement touché par la crise économique avant même le déclenchement de la pandémie. C'est un pays qui a plusieurs fois fait défaut dans son histoire récente. Ça a pu marquer l'Argentin qui sommeille en lui ?
Ah oui, c'est fondamental parce que dans la formation... Alors à la fois, il y a la formation jésuite qui est très importante parce que effectivement, c'est une formation qui sensibilise beaucoup sur l'étude des sciences sociales. Et il y a aussi son parcours en Argentine, parce que évidemment, il a été en contact avec le terrain. C'est peut-être une des différences majeures avec ses prédécesseurs, c'est qu'il a été au contact des plus pauvres, notamment dans les banlieues de Buenos Aires. On le voit dans le documentaire qu'avait fait Wim Wenders sur le pape, avec notamment les chiffonniers, cette corporation dont il a été très proche. Et c'est de là que lui vient cette expérience un petit peu du terrain et de la vision de l'économie sociale.
En Argentine, on les appelle les cartoneros. Un peu comme les chiffonniers, ils vivent en récupérant les cartons, d'où leur surnom. En fait, ils recyclent tout ce qu'ils trouvent dans les poubelles. Ces pauvres gens, plutôt que de susciter dégoût ou pitié, doivent être des sources d'inspiration pour notre monde. Tel est le message du pape François en cette veille de Noël. Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de mépriser tout ce qu'on délaisse, a-t-il déclaré dans un message vidéo. Nous vivons dans une société de gaspillage où l'on jette non seulement les produits, mais aussi les gens.
On entend dans ce reportage d'Euronews les propos du pape au sujet de ces recycleurs des rues. Pierre, c'est ce qui lui vaut cette image d'un pape vert, écolo ?
Oui, alors le Vatican récuse cette appellation hein, parce que le pape vert, pour eux, c'est extrêmement réducteur. C'est une expression aussi qui évoquerait un peu un phénomène de mode, ce qu'il conteste complètement. Hein. Ce serait un peu une démarche de greenwashing. En fait, pour lui, d'ailleurs, il l'a dit, l'encyclique Laudato Si de 2015 n'est pas vraiment une encyclique sur l'écologie, mais c'est plutôt une encyclique sur la doctrine sociale. Donc il faut bien voir que pour lui, il faut toujours gérer en même temps le cri de la nature, ce qu'il appelle le cri de la nature, et le cri des pauvres. Et en clair, on ne va pas s'occuper des questions environnementales sans traiter les affaires sociales. Et ce qui est très important dans la démarche du pape, c'est qu'en fait, il a toujours été très imprégné par ce qu'on appelle la théologie du peuple, qui était très importante en Argentine et qui s'inscrit dans le sillage de la théologie de la libération et qui prend en compte les besoins des plus faibles. Et évidemment, il a vécu la réalité des banlieues, c'est ce qu'on disait. Il a vécu sur le terrain la réalité des banlieues, la crise de la dette argentine. Tout ça, évidemment, lui donne un background supplémentaire par rapport à ses prédécesseurs, qui étaient plutôt, parlant de Benoît XVI en tout cas, des théologiens un peu derrière les murailles du Vatican.
Le courant de la théologie de la libération, né en Amérique centrale, est très tourné vers la dignité des plus pauvres et des exclus. C'est un mouvement de pensée, Pierre, qui n'a pas toujours été bien vu au sein de l'Église.
Oui, tout à fait. La théologie de la libération était plus controversée que la théologie du peuple qui en découle. Et de là, d'ailleurs, vient un petit peu cette image du pape de gauche, entre guillemets, qui est contestée notamment par une partie de l'Église américaine. Et il y a eu un livre très intéressant du correspondant de La Croix l'année dernière qui s'appelle « Comment l'Amérique veut changer de pape » et qui explique très bien, c'est le correspondant de La Croix, Nicolas Sénèze, qui a écrit ce livre, comment, effectivement, une grande partie de l'Église conservatrice américaine est vraiment ulcérée par les prises de position du pape et l'utilisation des fonds, notamment des fondations américaines qui ont donné de l'argent au Vatican en fonction de cette politique sociale et de ce souci des plus pauvres qui ne correspond pas forcément à l'organisation du Vatican dans son mode le plus traditionnel.
Alors vous l'avez expliqué, Pierre, hein, l'idée derrière ce Davos du pape, c'est éclairer aussi les jeunes générations sur les enjeux économiques de la planète. Pour autant, quelles sont ses chances d'être entendues au-delà des murailles du Vatican ?
Oui, alors ça, c'est une question intéressante parce qu'effectivement, on verra quel relief aura cette conférence qui, encore une fois, se tient entièrement en ligne pour des raisons liées à la pandémie. Hein. Aujourd'hui, Assise se retrouve dans une zone rouge, donc il n'est pas possible que le pape s'y rende même ce week-end. Mais il y a eu un fort intérêt des jeunes pour cet événement. Les organisateurs parlent de plus de 3000 jeunes qui vont être actifs et suivre ces conférences en ligne. En fait, la démarche du Vatican n'est pas tellement de faire passer un message à l'extérieur, au-delà des murailles du Vatican, c'est plutôt de réfléchir et de faire venir les jeunes qui ont travaillé, qui ont rédigé un pacte, d'ailleurs, c'est comme ça que s'appelle la démarche avec le pape pour modifier l'économie dans un sens plus humain, plus juste. Donc c'est vraiment un forum de jeunes, un petit peu pour collecter l'information, pour collecter un peu les attentes des jeunes dans ce contexte actuel de la pandémie, car le pape estime que ce sont eux qui ont une vision plus radicale et plus courageuse de l'avenir de l'économie, et il entend vraiment répondre à ses aspirations plutôt que de se reposer sur des vieux modèles. Donc c'est ça qui est un peu particulier dans cet exercice, c'est qu'il y a à la fois des grands témoins, on a cité Mohamed Younous, mais aussi évidemment Jeffrey Sachs, qui est un des grands inspirateurs de la pensée économique aujourd'hui du Vatican, puisqu'il est un grand spécialiste du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, et aussi il est conseiller du secrétaire général des Nations Unies sur les objectifs du millénaire pour le développement. Donc il joue un rôle très important. Mais en fait, c'est vraiment aussi le renouvellement et l'étude des nouveaux paradigmes qui sont en gestation pour le monde de l'après-Covid, qui sont dans l'esprit du pape aujourd'hui.
La première étape, ce sera de mettre en œuvre un revenu universel pour les plus pauvres, d'éradiquer par la pauvreté, par l'automatisation du RSA et le fait de le revaloriser, pour ce qui me concerne, de 10% en le portant à 600 euros, et de le distribuer aux 18-25 ans.
En France, on se souvient lors de la dernière élection présidentielle du plaidoyer de Benoît Hamon en faveur d'un revenu universel. De ce point de vue, Il est rejoint par le pape François ?
Oui, tout à fait, puisque dans une intervention en avril, il est rejoint, pas dans le détail, mais sur l'idée d'un revenu pour les plus faibles, et notamment ceux qui travaillent dans l'économie parallèle, on va dire. On dit que c'est 70% dans certains pays de la main-d'œuvre qui est concernée par ce problème et qui sont donc particulièrement touchés par la pandémie puisqu'ils ne vont bénéficier d'aucune mesure d'aide puisque par définition, c'est l'économie souterraine et que donc il n'y a pas de travail déclaré. Et là, dans un texte en avril, le pape s'est prononcé pour la mise à l'étude d'une forme de revenu de subsistance. Alors, c'est peut-être beaucoup moins précis que les propositions de Benoît Hamon, mais il y a cette piste de réflexion et qui est notamment très présente depuis la pandémie.
Il y a aussi une volonté de sa part de rompre avec l'image sulfureuse de la Banque du Vatican, éclaboussée encore par un scandale financier en 2019.
Oui, alors ça, c'est un élément d'embarras, évidemment, pour le Vatican, parce qu'il y a eu encore un nouveau scandale en octobre, comme vous le savez, avec la mise à l'écart du cardinal Giovanni Becciu, qui était un personnage clé de la curie, hein, qui est un cardinal sarde, jusqu'à une date récente, encore numéro 2 de la secrétaire d'État du Saint-Siège, et donc qui avait la main sur toutes les affaires un peu financières. Et régulièrement, donc, il y a ces scandales financiers qui touchent soit à l'APSA, qui est donc l'organisme chargé de gérer les investissements immobiliers du Saint-Siège, soit d'autres organismes. Et ça, évidemment, c'est une source d'embarras pour le pape, qui s'est dit à plusieurs reprises meurtri, même blessé par ces scandales, et qui a des difficultés à remettre les choses en ordre, parce que c'est lié à des facteurs historiques très, très enracinés, très lointains. Alors, on peut dire que, par exemple, la Banque du Vatican, entre guillemets, l'IOR, l'Institut des œuvres religieuses, a été remis sur les rails d'une certaine manière, mais il y a encore beaucoup de dysfonctionnements au sein du Saint-Siège, et ça, c'est évidemment un peu gênant pour le message du pape, qui est un peu parasité par, disons, par ses effets secondaires. Cela dit, ça ne remet pas en cause, c'est complètement distinct évidemment, mais disons que certains pourraient s'en saisir pour dire « bon, on reste à un niveau théorique et que sur le plan concret, le Vatican n'est pas lui-même en mesure de mettre de l'ordre dans sa propre maison ».
Merci Pierre de Gasquet, grand reporter aux Échos Week-end. Vous pouvez retrouver l'intégrale de son article consacré au Davos du Pape dans les pages du journal tous les vendredis en kiosque. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous et partagez vos épisodes préférés. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.